Kézéko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Ah, les vacances d'été, un véritable casse-tête chinois. Entre le choix de la destination ou encore l'étape de la valise, on ne s'en sort plus. Par ailleurs, avec le dernier rapport du GIEC et les conditions actuelles, un nouvel enjeu se pose, l'impact écologique. Et oui, faire bronzette, c'est parfois pas très sympa pour la planète, ce pourquoi il faut minutieusement planifier ses vacances afin de réduire un maximum son empreinte carbone. Aujourd'hui, je reçois Juliette, rédactrice en chef chez Nohou, afin qu'elle puisse nous livrer ses meilleurs conseils pour passer des vacances éco-responsables.
Alors, bonjour Juliette, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement l'activité de Nohou ?
Bonjour. Nohou, c'est un média lancé par France Télévisions et la WDR, qui est son équivalent allemand. C'est un média numérique positif pour s'informer et se bouger pour la planète, officiellement, c'est ça qu'on dit. En fait, c'est un média sur l'urgence environnementale pour les jeunes européens. En gros, parce que 53 des jeunes européens aujourd'hui pensent que le changement climatique est l'un des premiers sujets de préoccupation, premier sujet de préoccupation devant situation économique, propagation de maladies infectieuses type Covid par exemple. Donc, ils sont extrêmement inquiets. Donc, Nohou s'adresse à ces jeunes conscients de la crise environnementale, mais qui n'ont pas encore mis en place des actions concrètes ou qui se sentent un peu perdus face aux différents sujets. Et donc l'idée, c'est qu'on a un site internet et des réseaux sociaux pour adresser ce sujet de l'urgence environnementale, pour donner aux lecteurs toutes les clés pour agir à son échelle, comprendre les débats, etc. Et pas se sentir démuni ou illégitime ou pas assez informé, etc. C'est vraiment pour sensibiliser au maximum et de manière, et surtout le plus important, de manière fun, positive, déculpabilisante. On vulgarise beaucoup et surtout on fait du journalisme de solutions et constructif pour toujours apporter des solutions et se tourner vers le futur et l'action, quoi. Et aussi, assez important, on est un site low carbone, c'est-à-dire qu'on va parler de faire des choses pour l'environnement sur le site, mais en tant que site nous-mêmes, enfin, en gros, le site émet très peu d'énergie, quoi, d'émissions, parce que le numérique, c'est quand même 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc en fait, on est sur le fond comme sur la forme, on essaie d'être cohérent. Et du coup, c'est le petit challenge et le plus de Nohou, c'est que voilà, le site, il est low carbone. Concrètement, ça veut dire par exemple qu'il n'y a aucun player vidéo qui est intégré au site, il n'y a aucun outil CRM qui est connecté, les images sont compressées pour ne pas dépasser 50 kHz. Plein de choses comme ça, les liens externes sont limités, etc. Donc c'est Nohou.
Ok, donc Nohou, en fait, c'est de la sensibilisation, comme aujourd'hui, comme tu le fais d'ailleurs, en nous parlant de vacances finalement sans polluer. Et aujourd'hui, en fait, chez Nohou, tu es journaliste, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement?
Ouais, alors moi, je suis rédactrice en chef, donc je suis journaliste de formation. Et chez Nohou, donc ça peut m'arriver d'écrire des articles ou de faire des posts sociaux parce que ça aide tout le monde et puis parce que j'aime bien aussi. Mais c'est pas ce que je fais principalement. Moi, mon travail, ça va être de valider les sujets qui vont être publiés sur Nohou, de relire les différents articles et de les valider, de travailler sur des projets différents avec des partenaires médias, et surtout de gérer la ligne éditoriale, de m'assurer de son respect et de m'assurer par exemple qu'on reste toujours positif à la fin de l'article, qu'on propose les bonnes solutions, etc.
Ok, donc l'objectif de Nohou, c'est pas seulement de restreindre, mais aussi de proposer des alternatives. Et justement, par exemple, si on veut voyager et qu'on a un pays qui est assez loin, on sait tous que l'avion est à bannir, mais justement, qu'est-ce que vous aurez à proposer à la place de ce moyen de transport qui, comme vous allez nous le montrer, est assez polluant?
Effectivement, qui dit vacances dit pour beaucoup avion. Enfin, je dis pour beaucoup, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Mais ce qui fait qu'en fait, c'est une petite minorité de la planète qui pollue énormément pour tout le reste. Donc c'est pour ça que ceux qui peuvent prendre l'avion, ce serait bien qu'on fasse un peu de la part. Donc du coup, pourquoi limiter l'avion? Parce que par exemple, sur une même distance, un trajet en avion, ça peut émettre jusqu'à 1500 fois plus qu'un trajet en train. Donc un Berlin-Varsovie en avion, c'est presque 3 fois plus de gaz à effet de serre émis que le même trajet en train. Et par exemple, un Paris-Barcelone, c'est 20 fois plus, alors qu'on peut très bien prendre un train Paris-Barcelone, c'est 6 heures directes Pour 20 fois moins de gaz à effet de serre, c'est quand même plus sympa. Et en tout, le transport aérien est responsable de près de 3% des émissions mondiales de CO2. C'est moins qu'Internet, mais c'est un impact qui est énorme. Et comme je dis, parce qu'il est généré par un très petit nombre de personnes. Aujourd'hui, dans le monde, pas beaucoup de gens, enfin, à l'échelle du monde, on n'est pas beaucoup à prendre l'avion. Et le truc, c'est que les gens sont de plus en plus à prendre l'avion. Donc en gros, aujourd'hui, c'est déjà un gros impact sur l'environnement, alors qu'on est très peu à le prendre. Et en fait, là, on est de plus en plus à le prendre parce que c'est de plus en plus accessible, ça se démocratise de plus en plus. Et en fait, le trafic aérien devrait doubler d'ici 20 ans. Donc en fait, la situation risque pas de s'arranger. Donc il faut vraiment qu'on essaye de changer nos mentalités, d'essayer de réfléchir à deux fois avant de prendre l'avion. Évidemment, l'idée, c'est pas de dire faut arrêter de prendre l'avion, parce que déjà c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu peux en avoir besoin pour le travail, tes études, visiter ta famille, partir en voyage, le voyage de ta vie. Voilà, l'idée, c'est peut-être de se dire, voilà, essayons de réduire un peu les envols. Si t'as l'habitude de prendre l'avion, pourquoi pas commencer à plutôt partir en train cet été, ou de temps en temps, ou si tu prends l'avion, partir sur un temps plus long. Mais les alternatives à l'avion, ce serait mon meilleur plan, c'est le train, je trouve ça génialissime. T'as Interrail, tu payes un pass là, pour partir en vacances partout en Europe et prendre le train et de faire le tour de l'Europe en train, si t'as assez de temps. C'est quand même hyper stylé. Puis le voyage aussi, c'est aussi du voyage. Enfin, le trajet, ça fait aussi partie du voyage. Donc le train, c'est cool. Et puis tu peux lire et tout. Enfin, bref, le train, c'est le mieux, c'est le moins polluant et le plus pratique. C'est le plus rapide. La voiture, ça fonctionne aussi, mais c'est à plusieurs. Pareil, il y a un truc qui commence à être un peu plus à la mode et qui attire le plus en plus de gens, mais après c'est pas forcément hyper accessible quand t'es pas habitué, mais c'est le cyclotourisme. Il y a plein de voyages maintenant qui sont en vélo, de gens qui prennent leur vélo et qui font le tour du monde ou le tour de la France ou qui font le tour d'une région, enfin plein de trucs. Et en vrai, les pistes cyclables se développent, il y a des euroroutes. Eurovélo, ça s'appelle, des routes qui travaillent, des routes de pistes cyclables qui sont fléchées en Europe. Et t'as plein de pistes cyclables qui traversent l'Europe avec des niveaux différents et tout, c'est hyper stylé. Et puis si l'avion c'est vraiment obligé pour tes vacances, le mieux c'est d'éviter les escales et puis de privilégier un long séjour au même endroit plutôt que de faire plusieurs petits trajets. Et puis ça rentabilise un peu ton empreinte carbone. Moi maintenant, ce que je fais, c'est que si je pars en voyage en prenant l'avion loin, je reste un mois, quitte à télétravailler ou quoi, mais...
Ok, d'accord. Donc en fait, il y a plusieurs compromis, ça dépend du contexte aussi, ce qui fait que l'avion est à éviter, mais que ça peut se justifier. Et comme tu l'as dit, de toute façon, il y a plusieurs alternatives, donc on n'a plus trop d'excuses. Mais c'est vrai que ça, c'est le premier obstacle qui est celui du transport, et on se rend compte avec le temps qu'il y a un deuxième obstacle qui est celui du logement. Car oui, se loger, ça peut polluer, hein, ça dépend de où on se trouve, si on est dans un all inclusive ou si... slash c'est l'habitant, ça n'a pas le même impact. Et qu'est-ce que tu aurais à nous proposer en fait, justement pour avoir un impact carbone moindre lorsqu'on veut se loger à l'étranger?
Pour se loger, on peut faire, c'est comme partout, il y a plein de logements qui peuvent qui vont être plus polluants que d'autres, qui vont être plus gourmands en énergie. En fait, c'est comme chez toi, tu vas faire attention à l'électricité, à ta consommation d'eau, etc. Et du coup, faut faire attention à ce que le logement que tu vas prendre et toi, tes habitudes que tu vas mettre dedans respectent ces normes-là. Mais par exemple, pour trouver un logement, t'as des labels qui sont décernés au logement pour dire s'ils sont écolos, leur consommation d'énergie est ok, la façon dont ils ont de prendre soin de l'endroit ou des alentours est ok. Et du coup, tu peux regarder s'ils ont ces écolabels-là, regarder directement sur les sites des labels. La plupart ont une carte qui mentionne les établissements labellisés par pays et région, comme le Green Globe par exemple, ou l'hôtel au naturel, ou regarder sur le site du logement et leur poser directement la question si t'as un doute. Voilà, normalement, s'ils font des trucs écolo, ils vont le mettre sur le site. Hein. S'ils en font pas, s'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est pas un logement écolo.
Ok, et après, il faut aussi faire attention au greenwashing, parce qu'il y en a qui vont prétendre finalement avoir certain impact écologique, alors que finalement, pas du tout. Donc, est-ce que tu aurais des petits conseils en fait pour éviter finalement de se faire leurrer par ce genre d'annonces?
Okay. En gros, les questions avant de se poser. Enfin, on avait fait un article qui était un peu les questions à se poser pour détecter le greenwashing, parce que c'est vraiment pas évident à reconnaître toujours. Et du coup, on avait un peu réfléchi à comment le déceler à son échelle. Donc, il y aurait à peu près 7 questions à se poser. C'est que, déjà, est-ce qu'il est vraiment expliqué pourquoi ce produit est moins mauvais pour la planète qu'un autre ? Donc, dans le cas d'un hôtel ou d'un logement, tu vas aller sur le site et voir une description s'ils disent qu'il est écolo. Enfin, voilà, tu vas essayer de chercher en quoi, qu'est-ce qu'il donne comme détail. Est-ce que ce label environnemental est officiel et fiable ? Donc, quand tu vas sur le site d'un logement et que tu vois un label écolo, va checker sur Internet s'il est vraiment fiable et si c'en est un vrai. Est-ce qu'ils sont vraiment transparents ? Donc, tu vas le voir sur le site. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'explications sur, je sais pas, les fournisseurs des petits-déj, les procédés de fabrication d'un tel truc ou de plein de choses. Voilà, en fait, plus il y a de détails, et plus c'est fiable en fait. Ça signifie une certaine transparence. Plus sur le site il y a des informations, plus ils vendent leur truc écolo vraiment de manière détaillée. Normalement, tu checkes les labels, etc. Tu checkes si c'est vraiment plus écolo qu'un autre hôtel, s'il y a vraiment besoin de dire ça. Mais en général, ceux qui font du greenwashing, ils ont une petite page avec 3 paragraphes très bateaux sur à quel point ils sont écolo, et du coup, t'as aucun moyen de vérifier si c'est vrai, quoi. Il n'y a pas d'exemple concret, etc.
Ok, donc pour le logement, il faut tout de même rester vigilant face au greenwashing. Il y a plusieurs tips, comme tu l'as dit, pour essayer de le détecter. Mais on n'est jamais à l'abri de cette stratégie marketing. Puis de toute façon, il y a tellement de choix aujourd'hui qu'on trouvera forcément notre bonheur. Il y a forcément en fait, des logements labellisés qui font attention à l'environnement, qu'ils ont des chambres à nous proposer. Donc, c'est pas vraiment un souci. Et maintenant, j'aimerais te poser une autre question. Imagine qu'on est à la veille du voyage et qu'on fait notre valise. Car oui, faire sa valise, c'est pas moindre. Ça a aussi un impact écologique en fonction de l'emballage qu'on prend, des matériaux, des outils réutilisables ou non. Et je veux savoir en fait quel conseil tu nous donnerais pour polluer un minimum quand on fait sa valise. Est-ce qu'il faut prendre un sac à dos, une valise traditionnelle, est-ce qu'il faut prendre avec soi des cotons jetables, des cotons réutilisables? Qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller?
Ouais, alors plus les bagages sont légers, mieux c'est. C'est mathématique, plus un avion, une voiture est chargée, plus elle consomme du carburant. Donc une valise plus légère, c'est moins d'émissions de CO2. Donc déjà, voilà, il faut voyager léger. Puis en plus, c'est plus pratique, donc c'est cool. Aussi, il faut dire au revoir aux produits jetables, tout ce qui est rasoir, lingette, pile, etc. Enfin, des choses que tu peux prendre en voyage qui sont jetables. C'est des déchets supplémentaires pour l'endroit où tu te rends. Et c'est pareil pour si tu vas acheter du savon pour le Airbnb où tu vas aller, ou ton auberge, etc., ou ton camping, essaye peut-être de prendre du savon, du shampoing solide pour éviter les déchets. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on voyage, on va consommer beaucoup plus et on va produire beaucoup plus de déchets. Donc si on est sur une destination plutôt touristique, si on est en pleine vacances, en fait, c'est là où il y a le plus de déchets aussi à ce moment-là. Donc il faut limite faire plus d'efforts que quand on est à la maison pour compenser un peu ça. Par exemple, acheter du savon, du shampoing solide, privilégier des choses sans emballage. Si tu es en camping, éviter peut-être les assiettes plastiques, plutôt des trucs qui se nettoient, des tupperwares, etc. Et voilà. Sinon, il y a des petits tips aussi pour préparer ta valise, des indispensables qui pourraient être à prendre pour les vacances. Ce serait par exemple un sac à déchets, genre une poubelle, pour rien laisser sur la plage, genre t'as toujours ta petite poubelle sur toi. Un cendrier de poche si tu fumes, parce que là c'est fini, on est en 2022, on ne jette plus sa clope par terre. Une gourde si t'en as pas déjà une, comme ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. Et une crème solaire pour éviter de cramer, mais privilégier la crème à l'huile, puisque l'huile c'est mauvais pour l'eau. On a aussi fait un article sur NoYou avec des marques de crèmes solaires qui sont moins mauvaises pour l'environnement que d'autres, parce que c'est pas un truc hyper bon pour l'eau. C'est des petits gestes, mais si on les fait tous, et régulièrement, et enfin voilà, si tout le monde s'était mis à avoir une gourde, si tout le monde se mettait à avoir une gourde sur les plages. Il y a vraiment des problèmes de tortues qui vont pas bien.
Ok, donc c'est plutôt petit geste, gros impact. Et c'est vrai que si on y met tous du sien, on pourrait peut-être arriver à quelque chose de mieux de ce qu'on a aujourd'hui. Et je voulais aussi te demander autre chose. Maintenant, on va passer sur un autre thème, on n'est plus sur la valise mais plutôt sur l'alimentation, car comme on le voit en fait dans la vie de tous les jours, s'alimenter ça a un impact sur l'écologie. C'est pour ça qu'en fait on préconise des régimes alimentaires plutôt végétaux, comme le véganisme, les gens qui sont végétariens, etc. Mais c'est vrai qu'en vacances c'est assez délicat en fonction du pays de trouver des régimes alimentaires adaptés en fait au tien, parce qu'en général les restaurants ne proposent pas spécialement en fait des alternatives végétales, ce qui devient assez compliqué pour les personnes végé comme moi par exemple. Et je voulais savoir du coup quels conseils aurais-tu à donner pour conserver justement ce mode d'alimentation, ce mode de vie à l'étranger. Est-ce qu'on mange que des frites, est-ce qu'on ramène avec soi des choses, comment survivre en fait en étant végétarien ou végétalien à l'étranger?
Alors sur place, il y a plein de choses à faire pour pas polluer sur place, mais c'est ça effectivement. Enfin de toute façon, les choses qui, voilà, manger végétal, le plus végétal possible et le plus local possible, un des plus gros gestes que tu peux avoir pour réduire ton empreinte carbone perso. Donc si possible, oui, toujours continuer à manger végan. Effectivement, quand tu es en vacances, tu vas être tenté parce que tu vas, c'est ça. En fait, en vacances, on va surconsommer, donc on va aussi aller plus au resto. Et donc être plus tenté par manger un burger au bœuf, etc. Bah, après, c'est chacun voit comme il veut, mais soit c'est les vacances. Enfin, c'est que souvent les vacances c'est aussi perçu comme un moment où on fait moins d'efforts, etc. On se détend. Donc les gens qui ont envie de manger de la viande, bah, ils vont peut-être plus le faire en vacances, alors que justement comme c'est le moment où on a tendance à surconsommer, il faudrait mieux faire plus attention. Mais les tips, à part se dire que continue de manger végé ou végan si possible, ou alors juste checker. Enfin, il y a plein de sites, par exemple, il y a une carte Vegaresto, je crois, un truc comme ça, une grande carte de France, peut-être même du monde, je sais plus, ou même il y a des cartes sur l'application Mapster végétarienne, etc. Comme ça, tu peux voir dans la ville où t'es tous les restaurants végé ou vegan qui proposent des options végé ou vegan autour de toi. Sur le côté local et de saison, aller au marché, hein, tout simplement, et puis regarder où est-ce que. Enfin, en plus, c'est hyper bien quand t'es en vacances d'aller au marché quand même. Tu vas vraiment voir des produits locaux, tu vas rencontrer des gens locaux, ça fait une balade, c'est quand même hyper cool. Donc vraiment essayer d'aller manger au marché parce que ça va être local et de saison, et ça c'est hyper important. Mais bien sûr checker les étiquettes, hein, que ça arrive pas des avocats du Mexique. Moins polluer en vacances, et ça va être choisir la bonne crête solaire pour éviter que ça détruise les coraux ou les poissons. Faire gaffe à ton maillot sur les rochers pour pas l'abîmer et pas avoir en racheter un toutes les deux secondes. Faire gaffe à ses habitudes, parce qu'on faut continuer de faire comme à la maison, parce que si on loue un logement par exemple en vacances, je pense on va y faire moins attention, on va utiliser plus l'eau, etc. Parce que c'est les vacances et en fait faut garder ses habitudes de consommation d'énergie, faire attention à sa consommation d'énergie. Plein de petits trucs. Juste faire attention à ça, à pas surconsommer et pas se surlâcher sous prétexte que c'est les vacances.
Ok, donc en fait la plupart des conseils qu'on a eu pour l'instant, c'est vraiment des conseils qui concernent des personnes majeures, des personnes responsables d'elles-mêmes, qui organisent leurs propres vacances. C'est vrai qu'en fait quand on est en famille, quand on voyage, même avec des amis qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas les mêmes principes de vie, c'est assez compliqué de rester éco-responsable, parce qu'on part au resto et qu'on mange de la grillade, parce qu'on voyage en avion tout simplement. Donc finalement en fait comment on fait pour rester écolo dans un milieu qui ne l'est pas?
Alors ça c'est vraiment le... c'est vrai que la famille c'est un truc, quand t'es tout seul végé ou t'es tout seul écolo dans la famille, tu passes rapidement aussi pour la relou de service. Nous, on avait fait un article sur No You, c'était pour survivre au repas de Noël, ou de fête de fin d'année, pour savoir comment parler écologie et sensibiliser sa famille sans les braquer, sans passer par la relou de service. Nous, notre tip, c'était de ne pas faire la morale, surtout pas, de se mettre à la place de l'autre. Mais je comprends que tu veux prendre l'avion parce que, je sais pas, pour ton dos, j'en sais rien. Mais trouver une alternative, montrer en quoi c'est utile, parler des avantages, partir des choses que les gens aiment aussi, pour réussir à les convaincre, à les sensibiliser à cette cause-là. Et puis, en plus, en vrai, l'écologie, et puis même comme plein d'autres thématiques, c'est hyper sociable. En fait, si ça a été prouvé par des études, si t'as une personne à côté de toi qui va acheter qui va jeter son papier à la poubelle, bah toi tu vas aller jeter le tien derrière. S'il jette par terre, par contre, tu vas peut-être pas aller mettre à la poubelle, tu vas le garder dans ta poche. Enfin, en gros, c'est hyper. En fait, si tout le monde, plus il y a de gens qui vont rendre ça normal de faire attention à l'environnement, plus les autres autour vont se dire ah bah oui, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est 2022. Enfin, c'est aujourd'hui, il faut que je fasse attention, quoi. C'est hyper. Donc, plus il y a de gens qui en parlent, et donc par exemple la propre personne, toi au sein de ta famille, tout passe par la sensibilisation. Donc plus t'en parleras, tes parents sont sensibilisés, enfin ta famille, et agira. Par contre, faut faire attention à pas braquer les gens, parce que parler d'écologie, c'est aussi parler de se restreindre, de se préoccuper d'autre chose que de soi et de se soucier de quelque chose d'autre. Et donc du coup, ça braque rapidement, quoi. Mais si on ne cherche pas à aller à l'encontre de la, enfin à critiquer la personne en face. Et si on part du principe que c'est quelque chose de bien, qu'on va pas faire la morale, on va se mettre à la place de l'autre, montrer en quoi c'est utile, parler des avantages, etc., ça passe tranquille. Mais bon, c'est un travail d'éducation, hein. C'est l'éducation écologique, et ça peut être chiant.
Donc en fait, c'est comme la sensibilisation en soi, faut pas faire la morale, faut se mettre du côté de l'autre, comprendre ses points, tout en finalement
c'est de la sensibilisation,
passer des messages, etc. Et puis ça peut améliorer les choses. Et puis de toute façon, quand les jeunes vont prendre leur indépendance, je dirais qu'ils pourront voyager seuls, ils feront leurs propres décisions. Et puis
après, il y aura les amis,
après, il faut aussi choisir, je pense que pour voyager avec des amis, il faut choisir un bon cercle d'amis qui a les mêmes valeurs, parce que sinon ça peut mener à des conflits. Et du coup, ça aussi, ça prendre en compte, je pense, dans l'organisation d'un voyage. Mm-hmm. Pour clôturer l'épisode, ce qu'on aime faire sur Kezako, c'est plus s'intéresser à l'invité. Et c'est pour ça que j'ai envie de te demander, quel est ton meilleur voyage éco-responsable que tu as eu de toute ta vie?
Mais donc, en gros, moi, Interrail, meilleur voyage, j'étais partie après le PAC et j'avais fait Amsterdam, Hambourg, Berlin, République tchèque et Autriche en train. C'était trop bien. Et tout ça en 3 semaines. Et en plus, t'es avec des copains. Et donc, c'est vraiment le voyage. Enfin, le trajet, c'est aussi ton voyage, quoi. Donc, c'est les galères dans les gares, les films dans le train, la peinture dans le train, enfin faire plein de trucs, rencontrer plein de gens différents, dans des auberges. En vrai, le train, c'est trop trop bien, et on a quand même un réseau de train en Europe qui est ouf, même en France. Le truc, c'est que c'est vachement plus cher que l'avion, parce que y a plein de raisons différentes à ça, et donc du coup on va trouver le train tout de suite beaucoup plus cher. Et c'est clair que quand t'as un vol à 15 euros pour aller en Grèce, t'as pas trop envie de mettre 200 euros dans ton pass Interrail, quoi. Mais franchement, ça vaut le coup, et c'est mon meilleur voyage écolo, et trop envie de le refaire.
Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à
de rien, j'espère que c'était assez clair.
Et j'espère à ceux qui écoutent le podcast que ça a pu répondre à nombreuses de vos questions et que ça a pu vous apporter des solutions. Sur ce, je vous retiens pas plus et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode chez Kezako. C'était Sarah.